Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On est avec OGG.
Bonjour Fabrice.
Salut.
Je vais te faire un truc très simple parce que la dernière fois que j'ai fait ça, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une interview avec toi. J'étais un enfant la dernière fois, c'était vraiment il y a longtemps. J'avais des cheveux longs,
oui.
J'étais rouge comme une tomate, c'était un bébé. Voilà. Donc du coup, et comme j'ai ce truc de bonjour OGG, moi je fais bonjour Fabrice parce que je suis un enfant hystérique. j'ai décidé de faire bonjour Fabrice.
Je suis une femme désormais.
Voilà, j'ai changé.
Justement.
Ça y est, c'est la maturité.
Je sais que tu as changé. Ça se voit dans tes yeux.
Ouais.
Ouais.
Bah, les épreuves.
Les épreuves de la vie.
Ouais.
On a fait une interview avec toi, la dernière date d'il y a un an, je pense.
Oui,
juste avant Virago.
Ouais.
Et on profitait justement de ta présence au Friends pour se dire pourquoi pas voir comment Aude a évolué avec cette expérience qui est pour toi nouvelle. Hein,
J'ai pris 15 ans dans la gueule. Hein. Oh. Non, pas seulement. Ah ouais, non, mais je suis plus là. Tu vois, avant les interviews Mads, j'avais de l'enthousiasme, du rire. Maintenant,
terminé. Bah les couilles. Pas les ovaires.
Bien sûr.
Alors déjà, peut-être pour resituer un petit peu, t'as lancé ce projet Virago dont on a beaucoup parlé sur Mademoiselle. On va vous mettre un lien. Alors, je sais pas où, là ou là, ben, quelque part, voilà, pour que vous puissiez voir. Si jamais vous n'avez pas vu, l'objectif de Virago, en fait, c'était surtout à la base de te lancer toi dans un programme. Solo, comme tu l'as dit à 2-3 reprises, moi j'ai entendu dire sur scène que jusque-là tu avais beaucoup bossé pour les autres et que tu décidais désormais de travailler pour toi et de te faire un projet à toi. Donc tu as décidé de parler des femmes qui font des trucs, qui ont fait des trucs. Je voudrais tirer un rapide. En fait, si tu devais tirer toi un bilan de cette première expérience en tant que créatrice solo, même si tu vas expliquer sans doute que tu n'es pas solo parce que.
Hein, j'ai une équipe derrière moi.
Voilà.
Je suis pas totalement autonome, mais en tout cas, je suis le leader de cette histoire.
Voilà. Yeah.
Ouais.
Merci.
Tu vois, je prends confiance.
On y reviendra.
Je travaille beaucoup.
Si tu devais tirer un bilan en fait de ces donc 8-9 premiers mois, et là, tu vas relancer après une pause pendant l'été, ça serait quoi?
Ben, les gens heureux n'ont pas d'histoire en fait. Moi, j'ai un bilan super positif de mon lancement de chaîne. J'avais, en fait, la dernière interview que j'ai faite pour Mademoiselle, j'étais si angoissée, j'avais si peur, c'était juste avant le lancement. Et bah finalement, bon, j'avais des raisons d'avoir peur, et finalement, bah, se lancer solo, ça fait pas si peur. Vraiment, personne n'a été blessé dans cette histoire. Ça n'a engagé potentiellement que moi. Et mon bilan est super positif. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, déjà, j'avais une communauté bienveillante, qui m'a suivi sur un projet qui me ressemble. Et je pense que du coup, il me ressemble parce que ça n'a choqué personne. Tout était cohérent, en tout cas dans le fond et la forme, ce qui fait que les gens ne se sont pas perdus en disant « Mais qu'est-ce que tu fais d'un coup? Pourquoi tu te mets à faire du rap ?» Par exemple, ça aurait été étrange. Voilà.
Mais marrant.
On n'exclut pas le projet. Donc je pense que les gens m'ont suivi, que la chaîne a monté de façon toute petite, mais exponentielle, et ça ne fait que croître. Donc là, 6 mois après, je suis à presque 40 000 abonnés, et j'en suis comblée, parce que vraiment, je ne pensais pas faire plus de 30 vues. Donc je suis ravie, ça intéresse les gens. J'ai un espace commentaire qui est sain, qui est respectueux, très constructif, parce que je réponds à tout le monde, je montre à tout le monde que je vois, que je lis. Il y a un échange, les gens contribuent beaucoup parce qu'en fait les commentaires des gens qui me mettent « mais tu devrais parler d'une telle » me permettent moi de remplir un petit fichier et donc je prends vachement en compte ce que disent les gens. Donc c'est super constructif et parfois il y a des vrais questionnements sous les vidéos. Pourquoi, de gens qui s'insurgent, pourquoi elle dit ça? Et j'explique que, dans mon processus qui je pense tient la route, quand je suis en chroniqueuse, je ne fais que relater des faits historiques. Et sans prendre parti. Et le personnage, quand elle dit des choses très engagées ou très fortes, ce sont forcément des propos qu'elle a tenus, qu'elle a écrits, qu'elle a dit. Je ne me permets pas de leur faire dire des choses très engagées si ce ne sont pas des choses qu'elles ont vraiment dites. Donc, du coup, en respectant ce principe...
Tu as quand même des touches d'humour, ou des,
oui,
tu leur fais
blagues,
dire des
etc.
trucs, etc., qui sortent, j'imagine, de...
C'est, oui, c'est le côté un petit peu fantaisie, on va dire, évidemment. Olympe de Gouges, je n'ai jamais dit, eh, « ouais, mon pote », par exemple. Mais ça, ça ne peut pas froisser. Enfin, pour moi, ça ne peut pas froisser, ou ça ne peut pas...
altérer son message.
Ni altérer la personne, ni altérer son parcours, ce qu'elle, et, ni son combat. Donc du coup, je fais vraiment attention d'être très respectueuse et des personnages et de la forme et des gens qui regardent aussi. Pas de concession aux faits historiques, pas d'approximation, pas de choses dont je ne suis pas sûre. Si ce n'est pas recoupé trois fois, je vire l'information de ma vidéo. Donc je fais attention aussi, mais parce que je trouve que c'est l'exigence d'Internet, de respecter le spectateur en ne lui donnant pas, en lui jetant pas des bribes d'infos dont je ne suis pas tout à fait sûre. Voilà. Et du coup, bah, je suis très contente. Ça se passe vraiment bien. J'ai vraiment des bons retours. J'ai vraiment des gens que ça intéresse. J'ai des choses à améliorer, c'est certain. Mais pour l'instant, je vais en faire d'autres. J'ai un copain, vraiment en Haute-Savoie, dont la vie n'est pas Internet et il s'en fout et il fait autre chose, qui m'a dit « j'ai regardé ton programme ». Et ben, j'ai retenu qu'il y a une nana qui a été présidente de l'Islande pendant 4 mandats. Je ne me souviens pas de son nom. Mais maintenant, je sais ça. Et je me suis dit...
Je sais que c'est possible.
Je sais que c'est possible et je sais qu'elle a existé. Et je me dis, bah, j'ai gagné. Je m'en fous qu'ils ne sachent pas à quelle époque, je m'en fous qu'ils ne connaissent pas exactement son nom. Mais par contre, si ça peut distiller dans l'inconscient collectif que bah, telle nana a fait ça, ah ouais, ça me dit quelque chose, il y en a une qui avait fait un truc dans le genre. Je me dis, bah, c'était l'objectif, c'est gagné. Qu'on ne retienne pas les dates, moi-même, je les retiens mal. Donc voilà, si je peux distiller des choses comme ça, c'est chouette. Après... J'ai pris la mesure aussi de la complexité d'avoir une chaîne, d'être régulière, du boulot que ça représente, parce que je me suis un peu lancée corps et âme là-dedans. Et les premières semaines, on a sorti un épisode par semaine pendant 8 semaines, sauf qu'il y a 3 jours de post-prod entier sur chaque épisode. Et je pense que moi-même, je n'avais pas pris la mesure de l'ampleur du travail à cause de ma propre exigence, hein, à cause de l'exigence que j'y mets. Ce qui fait que là, on a un petit peu levé le pied. Par ailleurs, parce que j'ai des activités de comédienne qui font qu'il faut que j'aille gagner ma vie. Du coup, on en a plein qui sont déjà tournés dans la boîte, il y en a plein qui sont prêts à tourner, il y en a plein qui sont écrits. Mais je pense qu'on va les sortir avec un peu une notion de mini-événement à chaque fois, parce que pour nous, c'est déjà tellement une montagne à gravir qu'on va proposer la montagne un peu comme un contenu un peu premium. C'est-à-dire quand un épisode sort, ben, il a pris du temps, c'est un mini-événement, on va le laisser vivre avant d'en sortir un autre.
Ok. Pour toi, c'était important d'en sortir 8 d'un coup ? Pour créer une régularité, ou alors tu t'es dit, tiens, allez, on y va. Tu t'avais pas anticipé forcément ça, c'est ça.
S'il y a vraiment un truc qui change pas de la première interview, c'est que j'ai tellement pas de stratégie. Et comme on m'a dit, faut être régulier, je fais, d'accord, je vais être régulier. Et donc, je vais faire tous les semaines à telle heure. Et en fait, oui, peut-être ça a contribué à un moment donné à faire un peu parler, mais en fait, je sais pas s'il y a vraiment une stratégie à adopter, absolument. Ils disent tous ça, mais... Tous les gens là, qui font des vidéos, qui ont des millions d'abonnés, disent qu'il faut être régulier. Est-ce qu'ils ont fait leur preuve? Bon, voilà. Enfin, je sais que je les écoute à des moments. Bon, voilà. Non, mais je dis ça parce que je parlais avec de Bruce d'y penser, ouais. Qui me dit j'ai 900 000 abonnés et il faut que j'en sorte une toutes les semaines pour. Et si tu n'es pas régulier, tu perds les gens. Je suis là. Je te crois. Mais du coup, je ne vais pas faire comme ça parce que je ne vais pas y arriver. Je vais laisser ma santé.
Oui, puis c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que tu n'as pas forcément non plus envie d'arriver à 900 000 abonnés parce que ça va peut-être cette fameuse communauté saine que tu disais à l'intérieur de tes commentaires, peut-être que ça va...
Ah bah, de toute façon, c'est sûr que plus la communauté grossit, plus tu as des gens qui ne sont pas d'accord, qui sont là par hasard, qui sont donc forcément... Je n'ai pas à l'abri que ça fasse des remous là-dedans. Après, j'espère que ça augmentera un peu parce que j'ai envie que les gens voient ce programme, parce que j'en suis fière et que je le trouve beau, principalement. Mais effectivement, bon, 900 000 abonnés pour une chronique un peu de niche, bon, on peut toujours espérer. Ouais. Il faut espérer.
Ça serait bien.
Ouais, ça serait super. Mais...
Pénélope a vendu 200 000 culottés,
absolument.
Tu sais, par exemple. Donc,
absolument.
Ça veut dire qu'il y a quand même un truc. Donc, déjà, si vous n'êtes pas abonné à Virago, qu'est-ce que vous attendez ? Cliquez sur ta tête. À ce moment-là, on va mettre le truc.
Voilà. Sans supplie. Pouf. Je t'ai fait un effet, comme ça, tu peux faire le...
Parfait, on va faire ça. Je voulais aussi discuter avec toi de... de cette capacité que tu as toujours et que j'ai
découvert, je vais me faire engueuler.
Que j'ai redécouvert chez toi ce week-end. Je pensais que de te lancer comme ça, parce qu'on commence à se connaître depuis un petit moment et tu as historiquement tendance un peu à te chier dessus, quoi. On va dire les choses comme elles sont. Hein.
Alors, pas au premier degré. Hein.
Non,
c'est
bien
vraiment,
sûr.
Je suis propre depuis un petit moment.
Je suis la maternelle. Et en fait, je me disais, ah cool, parce que moi, je t'ai vu prendre la parole, etc., dans des trucs, et je me disais, ok, Aude, elle est passée en mode warrior, le fait de se lancer, d'amener à changer, à switcher. Et hier, donc, je t'ai vu prendre la parole au Frames, devant tout ce monde. T'es resplendissante, t'es rayonnante, t'es fantastique, mais tu peux pas quand même t'empêcher de dire, putain, je suis vraiment à chier, pourquoi je suis là-dedans.
Je sais vraiment.
Tu sais, tu à un moment donné où tu décides de faire des trucs et puis après, il faut que tu fasses des trucs, quoi.
Ouais. Mais surtout le moment où tu réalises que t'as décidé de faire un truc, en fait.
C'est maintenant.
Je suis pas bien. Au moins, c'est un bon moyen de perdre du poids. Parce que vraiment, je me vide depuis ce matin.
Je pense à nos lectrices, en fait, et aux gens qui nous regardent sur YouTube et qui se disent, oh, elle est géniale et tout. Non, en fait, Aude, tu continues à te chier dessus, voilà, ouais. Tout simplement. Déjà, un, est-ce que tu penses pourquoi ? Et deux, est-ce que tu penses que ça, un jour, ça peut changer dans ta vie ?
Alors, pourquoi ? Ça fait 15 ans de thérapie déjà, donc je ne suis pas encore au bout. Donc, attends, reviens dans 10 ans, je t'expliquerai. Non, je sais pas. De toute façon, enfin, si, c'est un, tu vois, là, je croise des jambes, tu vois, ça y est, je suis là. J'ai un manque de confiance en moi. Incroyable, mais en même temps, c'est ça aussi qui me permet de faire ce programme. C'est-à-dire que si j'avais totalement confiance en moi et que je me trouvais géniale, peut-être que je n'aurais pas autant d'admiration pour les autres et donc je n'aurais pas fait un programme. Je ne sais pas, hein, mais de toute façon, cette manque de confiance en moi, il est là. Et il y a des trucs, mais je travaille. Hein, je travaille à sortir de ma zone de confort. Hier, j'ai fait une conférence du coup au Frames. C'était pour moi un énorme pas pour sortir de ma zone de confort. Et vraiment, 2 heures avant, je cherchais le plan d'Avignon pour m'échapper, m'évader et ne pas faire cette conférence.
Je me bats.
J'ai rampé un peu dans le. Le fait est que, à la fois, je ne vais pas lutter contre ma personnalité qui fait que j'ai l'impression tout le temps d'être une merde. Je ne vais pas lutter contre ça. J'y peux rien. Mais il y a aussi un truc que je me suis dit, et principalement à la conférence hier, c'est que pour la conférence, je me suis ultra maquillée, ultra sapée, je me suis mise sur des talons, je me suis créé un masque que j'ai aussi dans Virago, de meuf qui déchire. Et en fait, je me dis, moi c'est ma protection, c'est mon masque quand je suis en représentation comme ça, de ne pas être totalement moi. Et je me dis en même temps, j'ai pas envie que des personnes dans la salle se disent « Waouh !» Elle assure tellement. Bah ouais, t'as vu ce qu'elle dégage. Parce que c'est pas vrai. Donc j'ai envie de leur dire, les filles ou les mecs, ce n'est pas parce que je me crée un masque de warrior que je le suis à l'intérieur. Donc finalement, en l'acceptant, je me dis aussi, bah, dis-le, pour pas qu'on croie que, ah ouais, mais moi, j'arriverai jamais à prendre la parole devant tant de gens parce que elle déchire, ou elle fait ça, ou elle fait des blagues, ou elle a du charisme. Non, vraiment, une demi-heure avant, je me dis que je devrais être partout sauf là.
Non seulement tu le dis, mais tu le dis sur scène aussi. C'est-à-dire que tu es toi-même en train de dire que tu es en train de faire cacamou.
J'ai dit ça ?
Pas sur pas en ces termes exacts.
Non, ah oui, j'ai eu peur.
Mais si, il y avait quand même un rapport avec la diarrhée.
Ah oui, j'ai dit j'avais une descente d'organes à un moment donné.
Ah oui,
ouais, c'est vrai. Oui, oui, mais oui, parce que y a un endroit où quand je sens que je vacille, vu que moi j'aime bien être en maîtrise quand je fais des choses, dans les choses en tout cas que je sais faire, j'aime bien être en maîtrise. Si je ne le suis pas, je ne veux pas faire semblant, je préfère garder une authenticité de dire aux gens « Bon, bah, là, en fait, vous pensez que je sais ce que je raconte, mais je ne sais pas où va la fin de cette phrase. » Je préfère l'assumer plutôt que d'avoir l'air complètement arrogante et sûre de moi sur des trucs où, en fait, bah, je suis comme tout le monde, je vacille totalement, quoi. Et je le vois aussi quand j'ai reçu des gens à la conférence qui, d'un coup, se perdent dans leurs propos et je me permets, pour le coup, parce que je maîtrise ça, de les relancer, de les aider à sortir de la noyade. Voilà, mais parce que si je suis toute seule sur scène, personne ne peut le faire pour moi, il n'y a que moi hein, qui vais me sortir de la noyade. Donc voilà. Mais en l'occurrence, passer les 3 premières minutes ou les 5 premières minutes, après, ça va, j'ai un boulevard devant moi, c'est la mise en confiance, quoi.
C'est marrant parce que donc le thème de ta conférence, alors j'ai plus le thème exact en tête. Mais
c'était la place des femmes sur Internet.
Sur Internet, sur YouTube.
Sur YouTube, par défaut de langage, en fait, mais YouTube n'étant pas le centre de l'univers d'Internet, oui. Voilà, c'était sur Internet.
Je t'ai vu sortir un petit papier et tu as commencé à prendre des notes.
Oui.
J'ai trouvé que c'était intéressant, en fait. Tu as pris des notes de ce qui était en train de se dire.
Ben non, en fait, j'ai pris des notes parce que j'ai fait un peu ma chroniqueuse. Mais en fait, quand il y avait pour moi un point essentiel que disait un de mes invités, je me suis dit, ça fait une bonne conclusion, en fait. Et ça rajoute des points de conclusion. Tous les propos convergent vers ce mot-là. Donc, je vais me le noter pour, à la fin, dire... voilà. Tu sais, je suis très scolaire. Hein. J'ai quand même un gros syndrome de première de la classe. Et toutes ces petites choses que tu relèves me font me rappeler pourquoi je n'avais pas d'amis à l'école. Vraiment. Voilà.
Mais c'est aussi, c'est fou parce que ça se retrouve dans l'exigence que tu as envers le contenu que tu crées, où tu dis, alors en journalisme, en général, on dit pas une source, mais deux. Mm-hmm. Toi, tu n'es pas deux sources, mais trois.
Ouais. Oui, parce que le problème, c'est qu'on ne va pas se mentir, quand tu commences, ta source principale, elle va être basiquement Wikipédia. Déjà, moi, je n'ai pas confiance. Donc déjà, même ma page Wikipédia, elle n'a pas les bonnes informations. Ce n'est pas moi qui l'écris, mais elle n'a pas les bonnes informations. Donc déjà, je n'ai pas confiance. Donc forcément, je suis obligée de multiplier les sources. Et d'autant plus que je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Je ne suis pas historienne du tout. Je suis vraiment même nulle en histoire. Du coup, je me dois d'être d'autant plus exigeante et d'autant plus scolaire avec ce que je vais tenir comme propos parce qu'il y a vraiment des historiens en spectateur. Il y a vraiment des gens qui, pour le coup, qui s'y connaissent. Et s'ils voient et je me trompe complètement sur une période, je perds ma crédibilité. Mmh. Et du coup, je me saborde moi-même mon programme. Donc, je n'ai pas envie de me tirer cette balle dans le pied.
Donc, vous y avez une conférence à trois avec Swan ce matin sur Elles font YouTube. Et c'est fou parce qu'elle aussi est vraiment dans ce truc de il n'y a pas moyen de déconner, il ne faut pas déconner. Et comme tu le disais clairement, et ça, c'est un truc dont on a déjà parlé sur Mad, quand tu es une meuf, il faut que tu sois 10 fois meilleur bien que sûr. Tout le monde sur le job. C'est un peu antinomique aussi avec le fait de se dire « Ok, en fait, je me lance. » Parce que ça veut dire à un moment donné qu'il faut quand même bosser, que ton truc soit le plus parfait possible. Comment tu as fait pour te dire « Ok, en fait, vire à gauche, je vais me lancer. » Mais à côté de ça, il faut que ça soit hyper carré le bordel.
Mais parce que c'est ce que je fais dans tout ce que je fais. Ouais. Même en tant que comédienne, je fais attention à comment je travaille un rôle et comment je le joue et comment je me comporte sur un plateau. Parce que pour moi, comment tu te comportes en tournage est aussi important que le rendu de ce que tu vas donner de ton personnage. Donc c'est comme ça que de toute façon, je fonctionne et je travaille. Donc l'exigence, elle est partout. Alors après, moi, je trouve aussi que pour faire un truc bien, il faut avoir un cadre. À l'intérieur du cadre, tu peux gribouiller, dessiner, partir, machin, mais il faut ce cadre. Et donc moi, je me l'impose parce que j'aime bien la contrainte pour travailler. Je trouve que la contrainte est hyper importante. Si on me donne une feuille blanche, et si on me donne une caméra, on me dit « fais un programme YouTube autre ».
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Si je me mets pas absolument des épingles et des contraintes et fermer un peu des portes, il y a trop de choses, j'ai pas de. Et puis mon esprit partirait dans tous les sens et ça irait pas. Donc je trouve ça important de fixer des objectifs, des cadres. Après, le truc que ça empêche, et ça, mon auteur, on se bat là-dessus, parce que j'ai mon auteur avec moi, Virago, qui s'appelle Adrien Rebaudot, et on se bat un peu là-dessus parce que lui distille beaucoup de vannes dans les Virago que j'efface au fur et à mesure. Ça me fait marrer, je trouve bien, mais je veux pas mettre trop d'humour, je mets des petites. Mais tu sais, c'est de l'humour, on fait. Pas plus.
Pourquoi justement tu fais en sorte de garder une forme sérieuse?
Parce que j'ai peur sinon on ne prenne pas le truc au sérieux. Et le contenu est trop important et parfois je me permets une petite vanne à la fin ou au tout début. Là, j'étais vachement étonnée, j'ai présenté un inédit au Frames hier. Les gens ont ri, j'étais « Ah bon ?» Et j'ai eu presque peur.
Non, parce que tu peux jouer entre le décalage de ton personnage et de Virago.
Sauf que c'est pareil, comme pour moi la présentatrice doit être dans le fait historique et l'autre, je ne veux pas lui faire dire non plus des choses. Voilà. Donc ça peut être dans des trucs très fins de réaction, etc. Mais Je préfère effacer la vanne qui pourrait cristalliser aussi le commentaire sur « bah ouais, pourquoi tu as mis une vanne, etc. » Par exemple, mon deuxième personnage qui était Vic 10, Finn Bogatodir, au tout début où je ne savais pas du tout ce qu'allait donner Virago, j'avais fait un accent islandais parce que ça me faisait marrer d'imaginer que personne ne sait ce que c'est que l'accent islandais. Si tu veux faire un accent anglais, tout le monde sait le faire. Donc, je trouvais ça vraiment basiquement rigolo. Et je ne me suis pas dit que ça allait vexer la communauté islandaise. Mais j'ai eu deux, trois commentaires de « pourquoi tu fais un accent ?» Et en fait, ça me faisait juste marrer ce petit personnage de lui faire comme ça et de faire, si elle a un petit rire, de lui faire « hu !» parce que je trouvais ça rigolo et pas insultant. Mais tu as toujours quelqu'un pour cristalliser. Et je me dis « bah en fait, j'ai pas envie qu'on cristallise là-dessus alors que le fond est vachement plus intéressant. » Donc, je préfère estomper tout ça et qu'on se concentre sur ce qu'il y a à raconter. Peut-être qu'au bout de 50 épisodes, j'aurai une liberté qui me permettra de… Voilà, mais…
Et comment tu fais pour y arriver, tu penses ?
Bah, je pense que quand j'aurai vraiment installé ce truc, ces codes-là, si je me permets, peut-être je me sortirai du cadre à un moment donné. Mais pas pour l'instant, il faut installer un truc, je pense, où les gens comprennent le principe et sont fédérés autour d'un même projet, quoi.
Je pense qu'au bout du 8, c'est toujours pas fait le fait qu'on pense, le fait qu'on se dise « Ok, la meuf, elle est là pour mettre en avant des femmes qui ont fait des trucs et qui sont oubliées, etc. »
Alors, j'ai d'autres sujets parce que tu vois, j'ai d'autres problèmes. Hein, c'est que les 8, non, je pense que c'est pas encore assez parce qu'il y a encore des sujets vers lesquels j'ai commencé à tendre mais qui sont encore compliqués. C'est les femmes vivantes. Là, dans les trucs que j'ai tournés déjà, il y a une nana qui est une indienne et qui a 28 ans aujourd'hui. Comment ça va être perçu ? Comment la contacter pour la prévenir ? Est-ce qu'elle va être gênée ? Est-ce que les gens vont être gênés du fait que je fais parler quelqu'un qui est complètement en vie et que j'aurais pu inviter ? Tu vois, j'aurais pu la faire venir de New Delhi dans l'absolu. Les femmes de couleur, ça a été un gros sujet parce que je ne vais pas faire que des femmes blanches. Je ne vais pas traiter que des femmes blanches, il n'en est pas question. Sauf que le projet, c'est que je joue tous les rôles. Donc comment je fais ? Il y a le blackface qui est un gros problème. Donc de caricaturer des traits qui ne sont pas les tiens, donc caucasiens. Il y a le whitewashing, qui est le fait de blanchir quelqu'un qui serait de couleur. Tout ça, je n'avais aucune idée. Hein. J'ai découvert ça en me posant la question. Donc mon premier personnage de couleur, parce que j'ai dit, non mais si je cède à ces injonctions, je ne parle pas des femmes qui sont de couleur. Mais par extension, dans ces cas-là, je ne fais pas non plus des vieilles, je ne fais pas non plus des blondes, je ne fais pas non plus des non-françaises. Enfin, par extension, je ne parle de personne si je ne peux pas me grimer. Donc, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait pour Erta Kitt, qui a été mon premier personnage de couleur ? J'en ai parlé beaucoup avec ma maquilleuse, qui m'a dit « Choisis pour la première femme de couleur une femme qui n'a pas les traits trop foncés, la couleur de peau trop foncée. » Et qui n'a pas de traits négroïdes. Donc, il y a des traits de visage qui peuvent se rapprocher des tiens. Histoire de ne pas, vu qu'on va au plus proche dans le stylisme et dans le maquillage, de ne pas faire de caricature, de ne pas d'un coup mettre des grosses lèvres ou un nez épaté ou des cheveux qui ne seraient pas les miens, etc. Donc, on a brassé un peu. On a regardé Erta Kitt, qui est une femme noire, mais avec une couleur de peau assez claire, qui a des traits qui pourraient être complètement les miens. Et j'ai mis un foulard sur la tête pour éviter d'avoir une perruque malaisante, parce que dans les années 60, on pouvait tout à fait et l'emporter souvent. J'ai pris une photo ref, et donc sur cette photo, elle a un micro, elle a un col roulé, un collier de perles, un truc taille haute. Et c'est des noirs et blancs des années 60 qui sont travaillés très en contraste. C'est la grande époque d'Harcourt, et donc c'est des gris où il y a un trait de lumière qui passe au milieu du gris. Et du coup, on a travaillé avec David Tabourier qui fait les FX et qui est le chef-op. On a travaillé ce contraste de noir et blanc qui fait qu'on ne sait pas vraiment quelle couleur de peau j'ai dans l'épisode. Quand on regarde le making-of qui est sur la chaîne, objectivement, je suis très, très, très foncée. Parce qu'il faut en plus accentuer le maquillage. Je suis très foncée, mais après, on travaille intelligemment pour qu'il n'y ait pas de caricature. Pour le coup, pas d'accent, pas de comportement stéréotypé, mais que je puisse quand même traiter une femme de couleur. Et j'ai d'autres astuces dans ma besace pour, maintenant que j'ai imposé ça, faire d'autres femmes qui seront vraiment franchement noires, plus foncées, d'autres nationalités. J'ai une indienne là qui arrive. Mais donc, tu me dis, ouais, t'as installé aux 8 premiers épisodes, mais les 8 premiers, c'est pas encore ce que je vais me confronter avec les 4 qui sont tournés et qui vont sortir bientôt, où j'ai 2 indiennes, Donc une qui était vraiment franchement la peau blanche, mais une qui est vraiment indienne. Voilà. Et on va voir déjà comment on réagit les gens. Et puis avec le fait qu'elle soit en vie. Donc de toute façon, les challenges, ils arrivent.
C'est fabuleux de voir à quel point tu... Un problème, une solution. Ok, d'accord.
Bah, je
pas en train de te faire caca dessus, là. Tu vois, quand tu...
Non, mais parce que j'y, non, parce que j'y travaille à fond. Je réfléchis vraiment le sujet. Je ne prends pas ça à la légère. Et si j'avais voulu faire, comme tu le dis si bien, des paix d'aisselle, je l'aurais fait. Et là, je n'ai pas choisi cette voie-là. Je n'ai pas choisi la facilité. J'ai choisi de me casser le cul pour les gens qui vont regarder. Donc, tout est réfléchi. Mais c'est aussi pour ça que quand on me conteste un propos, mais derrière, je peux faire une thèse en réponse sur pourquoi. Parce que chaque mot a été choisi, pioché, pas au hasard. Chaque création, chaque tout. Parce que je bosse mon sujet, tout simplement. Donc oui, c'est très méthodique. Et pour le coup, ça ne me fait pas peur. Parce que si j'ai un doute, je ne le fais pas. Ou pas comme ça.
Est-ce que tu as des projets à part Virago, bien sûr, que tu vas continuer, j'imagine.
T'as vu, je me referme de plus en plus.
La meuf se barre, elle va bientôt disparaître à l'intérieur de son siège.
Ça y est, je redeviens la même personne qu'il y a 6 mois, l'enfer, tu vois, nouveau projet, nouvelle angoisse. J'en reviens. Oui. Virago prend trop de temps pour que je ne fasse que ça, et en plus sur la chaîne, du coup, j'ai envie de... C'est aussi pour ça que j'ai appelé la chaîne OGG et pas Virago, pour me laisser la possibilité de faire d'autres projets. Donc ça y est, j'ai des envies, je ne sais pas du tout comment je vais faire et comment je vais le mettre en place, et... parce que c'est toujours pareil, j'ai toujours pas d'économie pour faire des choses, mais... J'ai envie de, par exemple, et je ne sais pas si, du coup, je le saurais peut-être en commentaire de la vidéo, si ça peut intéresser les gens, mais j'aimerais bien recevoir une heure, une humoriste, qu'elle soit web, scène, radio, télé, cinéma, pour savoir dans son parcours de femme, qu'est-ce qui a fait qu'elle a envie de faire marrer les gens. Parce que moi-même, je pense que l'humour est arrivé comme un accident. Je ne voulais vraiment pas faire ça.
Mais tu viens de la comédie française, ça va, tu peux pas le
problème. Non, mais même au-delà de ça, moi, quand j'avais 16 ans, je voulais jouer que des tragédiennes et j'espérais que...
Catherine Deneuve.
Voilà, je voulais être une jeune première, quoi. Je voulais jouer Iphigénie et me rouler dans la boue et dans le sang. Bon. Eh ben non, on m'a désigné, on m'a collé l'étiquette non, tu seras une servante de Molière, tu feras de l'humour. Donc, moi, finalement, je ne veux pas dire que je l'ai subi, hein, parce que je suis très contente de tout ce que j'ai fait, mais à quel endroit... Il y a cette bascule qui s'opère de je vais faire rire les gens. Et donc, ça m'intéresse, selon les parcours très, très différents, de d'où tu viens et pourquoi. Et est-ce que ça t'anime toujours? Parce que moi, honnêtement, si on doit parler de vulnérabilité, honnêtement, il y a beaucoup de moments où je me dis, je ne veux plus faire d'humour.
Ah ouais?
Ah ouais.
Pourquoi?
De plus en plus. Et alors, c'est complètement antinomique avec ce qui va sortir très bientôt, parce que vraiment, là, j'ai des séries télé qui sortent où c'est vraiment, on est dans l'humour pur et dur. Et parfois, je suis là, tu sais, l'humour ne me fait plus rire. Je lis des scénars d'humour, je fais, non, ça ne me fait pas rire. Et je ne veux plus, parce que je...
Mais il y a un côté un peu professionnel, ça, pour le coup. Je pense que c'est comme, comment dire, les blaguistes, les humoristes, etc. En fait, ils finissent par voir tous les schémas derrière. Donc,
alors, évidemment.
Tu vois, ils ne sont plus simplement spectateurs, ils sont aussi analystes.
Oui, et tu as complètement raison, parce que parfois, effectivement, quand je reçois un truc... et que je suis très surprise, je fais « Oh, génial, j'ai envie de faire ce sketch », parce que d'un coup, la surprise fait que j'oublie tout ce côté « blasé », entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il faut un sacré moteur pour avoir envie de faire rire et pour s'exposer, parce que tu racontes une histoire, l'histoire, elle plaît pas, machin. Tu racontes une histoire qui doit faire rire, il faut que l'histoire plaise, il faut que tu tombes au bon moment, il faut que ça fasse rire. Il y a une espèce de moteur épuisant à faire des vannes et épuisant à essayer d'être drôle et à essayer de... Et même, je trouve qu'en tant que femme, moi, à l'endroit où je suis, il y a un moment, en fait, où j'ai plus forcément envie de me grimer, j'ai plus envie forcément de faire des personnages très stupides pour faire rire. Peut-être que ça reviendra, hein, mais je sais qu'il y a des endroits où j'ai envie de me protéger un peu, j'ai envie de me trouver jolie ou intéressante, et pas forcément de faire rire à mes dépens. Parce que je pense qu'en fait, j'ai beaucoup fait ça, de faire rire à mes dépens, et je pense que ça entache ma confiance en moi. Ça y est, la fin de la psychanalyse.
Oh.
Merci mon psy, je vous fais un chèque, c'est terminé, au revoir, on solde tout compte. C'est ça en fait, j'ai entaché ma confiance en moi, mais c'est une question de personnalité.
C'est des rôles, non?
C'est des rôles, mais tu sais, quand pendant des années, tu reçois tes scénars en faisant la moche de point Aude, la nulle, la grosse de point Aude, la débile de point Aude, et eh ben peut-être qu'à un moment donné, Je sais que quand je suis arrivée chez Golden Moustache, j'avais du mal quand je recevais un scénario. J'appelais, je disais, mais je joue quoi ? Je disais, bah, tu joues la fille. Je disais, mais elle est normale. Puis dans le texte, il y a marqué qu'elle est jolie. Je disais, c'est pas pour moi, en fait. Mais vraiment, il a fallu que je me rééduque à dire, ah d'accord, je peux faire une fille lambda. OK. Et donc, je pense que tout ça, ça a un peu entaché mon petit cerveau de me dire, ah oui. Et donc maintenant, je me dis, tiens, j'ai quand même vachement bossé pour me rééduquer, à me dire que je peux jouer tout type de filles et de femmes. Maintenant, j'ai l'impression un peu de faire un bond en arrière quand on me demande un truc vraiment... Et pourtant, je le fais. Je sais que je vais passer des castings pour des rôles où vraiment je joue la mono-sourcil. Je le fais. Si j'obtiens le rôle, évidemment que je vais le faire parce que c'est mon métier, c'est mon corps de métier. Mais parfois, j'ai ce petit truc en tant que moi, être humain, de me dire est-ce que j'ai vraiment envie de... Voilà.
Bon, bah écoute,
je te dis ça maintenant, si ça se trouve dans 2 mois, tu vas voir
une
série sur Internet. Tu vois. De toute façon, je n'ai aucune conviction. Je te dis ça, ça se trouve dans 3 jours. Dans 3 jours, je suis là. Oui, oui, oui. Bon, voilà.
En tout cas, ça m'aura au moins fait plaisir que cette interview te serve de terminer ta psychothérapie de
absolument, donc, absolument. Pas ouais.
Voilà. Des petites brasses. Tout se passe bien. T'es en confiance. Avec des gens de confiance. Ça vient se passer.
Ouais. Mais merci, mademoiselle, de faire tous les 6 mois un bilan de ma thérapie.
Avec grand plaisir. Merci, Aude, en tout cas.
Merci beaucoup.
Bah, bon courage pour tout ce qui vient pour toi.
On y va.
Et puis abonnez-vous.
Ouais, abonnez-vous. Enfin,
pourquoi vous ne l'êtes pas encore ?
Si vous avez des idées pour moi, de concept, envoyez-les. Je le ferai, ça m'évitera de travailler trop.
Merci beaucoup.
Merci Fabrice.
Salut. Ciao.
T'as bien aimé cette vidéo, non ? Mettez un pouce bleu, par exemple, ou un pouce violet. Abonne-toi. Clique. Clique. Ouais.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.